À Briançon, une association pour défendre le Tibet libre.
Briançon n'a pas oublié le Tibet. De nombreuses manifestations se déroulent dans la plus haute ville d'Europe. Une campagne de parrainage avec des villes au Tibet a été lancée et depuis 15 ans maintenant, l'association Briançon 05 Urgence Tibet continue la lutte contre l'invasion chinoise. Tout commence en 1950 lorsque la Chine envahit le Tibet. L'occupation entraîne la mort de plus d'un million de Tibétains et l'emprisonnement et la torture de milliers d'autres. Après l'échec d'une révolte contre la domination chinoise en 1959, le chef politique et spirituel du Tibet, le Dalai Lama, part en exil en Inde, suivi par des dizaines de milliers de Tibétains, sans jamais cesser de croire que le Tibet est leur nation. Depuis 1959, la résistance continue, mais la Chine répond avec une forte répression. On compte maintenant 300 000 troupes chinoises au Tibet, et les Chinois sont encouragés à migrer dans ce pays par leur gouvernement. Résultat, les Tibétains sont en minorité dans leur propre pays. Plus de 6 000 monastères bouddhistes tibétains et des sanctuaires ont été détruits, et des militaires ont été placés par l'État chinois devant chaque monastère pour surveiller et contrôler l'activité religieuse. Toute référence ou image du Dalai Lama sont interdites. Les Tibétains sont soumis à d'intenses surveillances de leurs activités quotidiennes et de leurs communications. Le drapeau du Tibet et l'hymne national sont interdits. La Chine a violé à plusieurs reprises des conventions de l'ONU en pratiquant la torture de façon intensive contre les prisonniers politiques tibétains, souvent des moines et religieuses. Benoît Camard, porte-parole de l'association Briançon 05 Urgence Tibet, répond aux questions de Susanna Wright et pointe du doigt l'objectif à long terme du leadership chinois, éliminer progressivement toute la culture tibétaine.
Quelle est la situation et l'avenir des Tibétains?
Alors pour les Tibétains du Tibet, donc environ 6 millions de Tibétains, la situation est assez difficile. Depuis plus de 60 ans, le Tibet a été envahi et demeure occupé par la République populaire de Chine et les Tibétains se sentent vraiment sous occupation. Aujourd'hui, les droits de l'homme au Tibet ne sont pas respectés, on peut même dire qu'ils sont bafoués. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de croyance ne sont absolument pas respectées par les autorités chinoises. De très nombreux Tibétains sont emprisonnés, parfois pour de longues années, pour avoir juste exprimé leur opinion ou leur croyance dans un Tibet libre. Alors pour l'avenir du Tibet, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la République populaire de Chine paraît plus puissante que jamais. Aujourd'hui, dans le monde démocratique, plus personne n'ose s'opposer à la République populaire de Chine. Personne même n'ose protester lorsqu'il y a des violations systématiques des droits de l'homme au Tibet ou ailleurs en Chine. Donc les Tibétains se sentent victimes de cette injustice. Ils ont l'impression que plus personne ne vient à leur secours et que leurs droits continueront d'être bafoués pendant longtemps. Donc, si l'on regarde l'avenir du Tibet, on peut dire qu'il est intimement lié à l'avenir de la République populaire de Chine. Si un jour la Chine se démocratise, peut-être qu'il y aura un espoir pour que les Tibétains puissent à nouveau au moins jouir d'une partie de leurs droits fondamentaux. Si la République populaire de Chine demeure toujours aussi intransigeante et veut continuer à supprimer tout élément de la culture tibétaine, alors on peut dire que l'avenir est très triste pour les Tibétains et leur culture.
Et qu'est-ce que les Tibétains ils font en ce moment? Ils luttent toujours contre les Chinois, en fait.
Oui, alors la résistance n'a jamais cessé depuis 1950. Les moyens utilisés par les Tibétains pour résister sont très variés. Bien sûr, au début, il y a eu une résistance armée qui était tout à fait compréhensible dans le contexte des années 50-60, où les Tibétains voulaient vraiment se libérer de l'occupation chinoise. Et puis, sous l'influence du Dalai Lama et bien sûr du bouddhisme tibétain, cette résistance armée violente a cessé pour faire place à une résistance non violente. Aujourd'hui, les Tibétains essayent de résister à leur manière en essayant de préserver tous les éléments de leur culture, tous les éléments de leur langue, tous les éléments de leur patrimoine, quelquefois de manière organisée ou même de manière individuelle. Car tout élément qui pourrait laisser penser aux autorités chinoises que les Tibétains se regroupent les met en danger. Donc la plupart du temps, la résistance, elle est dans le cœur des Tibétains, elle est dans l'esprit des Tibétains.
Et on entend souvent parler d'immolation. Est-ce que ça continue ?
Ah oui, c'était quelque chose qui auparavant était inconnu dans la tradition tibétaine, mais depuis 2008, il y a eu 142 Tibétains qui se sont immolés, et la plupart d'entre eux sont décédés à la suite de ces immolations. C'est très triste parce que les personnes de tous âges et de toutes conditions qui se sont immolées, ça peut être des moines ou des nonnes, ce sont aussi des fois des personnes âgées ou même des jeunes qui se sont immolées. Ces gens-là ne l'ont pas fait par désespoir, mais pour donner courage à l'ensemble de la population tibétaine et surtout pour montrer qu'on peut résister sans s'en prendre à la population chinoise même. On peut voir dans ces immolations qui sont très bouleversante et douloureuse pour l'ensemble de la population tibétaine, on peut aussi voir un élément de non-violence, puisqu'il s'agit avant tout de ne pas heurter, de ne pas blesser autrui, mais de s'en prendre à sa propre vie. Alors ces immolations continuent, le rythme a diminué. Je crois qu'il n'y a eu qu'une immolation en 2015, donc au cours des trois premiers mois de l'année 2015, mais c'est un phénomène qui continue. Très souvent, les Tibétains qui s'immolent laissent un message, écrit ou oral, à des proches, pour expliquer un petit peu leurs gestes et pour dire que ce qu'ils souhaitent, c'est l'unité du peuple tibétain. Et bien sûr, le retour du Dalai Lama sur la terre tibétaine.
Et combien de Tibétains sont partis du Tibet ?
Alors, sur l'ensemble de la population tibétaine, les Tibétains de l'exil représentent une infime minorité. On peut dire aujourd'hui qu'il y a entre 120 000 et 140 000 Tibétains qui sont en exil aujourd'hui, que ce soit en Inde, au Népal, ou alors dans des pays aussi variés que l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, USA, Suisse, Europe, enfin l'Europe au sens large. Et sur ces Tibétains qui sont en exil, beaucoup sont nés en exil, et même certains enfants sont nés de parents déjà nés en exil. Et évidemment, puisque l'exil dure depuis 1959, pour l'essentiel, beaucoup de Tibétains qui se sont exilés à cette époque sont décédés sur une terre étrangère et n'ont jamais pu revoir leur terre natale.
Comme le Dalai Lama, il est en Inde. Quelle est sa place en ce moment ?
Alors le Dalai Lama, qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 80 ans, en juillet prochain, est le symbole du Tibet. Si aujourd'hui, depuis quelques années, il a abandonné tout rôle politique et on ne peut plus le considérer comme le chef temporel des Tibétains, il demeure néanmoins le chef spirituel de l'ensemble de la population tibétaine et même au-delà de tous les pratiquants du bouddhisme tibétain. Et son influence est considérable puisque pour les Tibétains, il est l'émanation de Chenrezig, c'est-à-dire un bodhisattva de la compassion.
Quand il n'est plus là, qu'est-ce qui va passer ? Est-ce que les Chinois, apparemment, ils veulent mettre leur Dalai Lama eux-mêmes ?
C'est tout à fait ça. Il n'y a pas très longtemps, le gouvernement chinois a annoncé que le Dalai Lama n'avait pas à choisir sa prochaine incarnation et qu'il appartiendrait à eux, gouvernement chinois, de décider de la réincarnation du prochain Dalai Lama. Bien sûr, aujourd'hui, le 14e Dalai Lama considère que la question de sa réincarnation n'est pas à l'ordre du jour car il se considère en très bonne santé, mais il est certain que lorsque le 14e Dalai Lama disparaîtra, les Tibétains de l'exil et l'ensemble des Tibétains au Tibet rechercheront sa réincarnation, mais le gouvernement chinois cherchera aussi une autre incarnation.
Pourquoi cette indifférence du monde politique international ?
Cette indifférence, elle n'est pas nouvelle parce que pendant des années après l'occupation, le monde occidental se souciait peu du Tibet. Mais depuis l'obtention du prix Nobel de la paix en 1989 par le Dalai Lama, il y a eu une prise de conscience dans les grandes démocraties de notre planète que les Tibétains, que le droit des Tibétains était bafoué et que le Tibet était un pays sous occupation étrangère. Et puis petit à petit, depuis les années 2000, la République populaire de Chine a pris de l'importance dans le concert des nations, une importance évidemment liée à son développement économique, et de moins en moins de pays, dont bien sûr le nôtre, la France, se soucient du sort du peuple tibétain, préférant essayer de s'attacher les faveurs de la République populaire de Chine dans l'espoir d'obtenir des contrats ou de faire fructifier l'économie. On peut dire que le développement de la Chine a beaucoup nui à tous ceux qui, en Chine ou au Tibet, luttent pour la sauvegarde de leurs droits et le respect des droits de l'homme.
Et votre association existe depuis 2000. Quelles sont les actions que vous avez menées pour le Tibet ?
Alors notre association, donc nous nous considérons comme une association de défense des droits du peuple tibétain. Donc nous avons deux axes principaux. Le premier, c'est évidemment de faire connaître, essentiellement donc dans les Hautes-Alpes et dans les environs du Briançonnais, de faire connaître la culture tibétaine, de faire connaître la situation des Tibétains au Tibet en exil, donc d'informer les citoyens de ce qui se passe au Tibet. Et le deuxième axe de notre association, c'est tout ce qui est, on va dire, politique, au sens où nous essayons d'influencer ou tout au moins d'informer aussi les personnalités politiques, qu'elles soient locales ou au niveau national, sur la situation au Tibet et de faire en sorte que la France défende davantage le droit des Tibétains et le respect des droits de l'homme au Tibet.
Et vous avez des actions à venir ?
Oui, alors c'est vrai que chaque été ou chaque automne, nous organisons des manifestations en faveur donc de la défense des Tibétains ou des événements liés à la préservation de la culture tibétaine. L'automne prochain, nous organiserons de nouveau un festival donc Imagine Tibet, Chronique Himalayenne. C'est un festival composé de films et de documentaires sur le Tibet et l'Himalaya, où nous essayons, à l'issue de chaque séance de cinéma, de parler des Tibétains, de leur situation et de dire un petit peu ce que l'on peut faire pour les soutenir.
Briançon est parrainé avec Payul en Tibet. Expliquez-nous comment cela fonctionne, ce parrainage.
Alors donc en France, il y a une association qui s'appelle France Tibet, qui a initié une campagne de parrainage de villes et villages tibétains par des communes françaises. Donc nous avons adhéré à cette campagne et nous avons, notre association a soumis à la municipalité de Briançon le village de Payul au Tibet, donc dans le Kham, dans l'est du Tibet. Cette proposition a été acceptée. Bon, bien sûr, Briançon est au cœur des Alpes et la situation de Payul dans le Kham ressemble d'un point de vue géographique étrangement à ce que l'on pourrait connaître dans les Hautes-Alpes. Payul est aussi un village avec une histoire importante et un patrimoine important. Donc nous avons trouvé qu'il y avait des similitudes entre la ville de Briançon et le village de Payul. Et donc voilà. Alors c'est un parrainage qui est avant tout symbolique, mais voilà, c'est pour qu'il y ait une communauté de cœur et de connaissances, de partage entre les citoyens de la ville de Briançon et puis ce village du Kham, donc Payul, qui peut par certains côtés ressembler à ce que nous connaissons dans les Hautes-Alpes.
Comment les gens peuvent s'engager pour soutenir les Tibétains ?
Je dirais, enfin, j'ai l'habitude de dire que d'abord, n'oublions pas les Tibétains. Voilà. La première chose, le premier engagement, c'est de tendre l'oreille, c'est d'être curieux, c'est de vouloir s'informer de la situation au Tibet et de la situation des Tibétains. Donc ne les oublions pas, c'est déjà le premier geste. Après, au-delà de cette pensée que l'on pourrait avoir à l'intérieur de nous ou dans notre cœur pour les Tibétains, on peut s'engager aussi auprès des associations, les soutenir, en faire partie, ou alors tout simplement regarder autour de soi s'il y a des manifestations, qu'elles soient culturelles ou autres, en faveur du Tibet, et y participer, aller à la rencontre des Tibétains et aussi de vos concitoyens qui les soutiennent. Il y a des Tibétains partout en France, on peut les rencontrer, on peut discuter avec eux, on peut s'informer, donc penser aux Tibétains, les garder dans son cœur, mais aussi s'informer. Si l'information ne va pas au-devant de vous, on peut aller chercher aujourd'hui l'information sur le Tibet.